commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur les grands enjeux stratégiques, géopolitiques qui nous bousculent aujourd'hui, chaque jour davantage d'ailleurs, avec Bruno Tertrais. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bruno Tertrais qui est vice-président, je crois, de la Fondation pour la Recherche Stratégique, c'est cela ?
C'est directeur adjoint.
Directeur adjoint, ou vice-président, son directeur adjoint. Et donc, qui est surtout l'auteur chez Odile Jacob d'un livre intitulé Pax Atomica, qui est évidemment le jour où il faut en parler, parce que on vient d'apprendre que les Russes projetaient de mettre dans l'espace, de faire tourner autour de la Terre, dans l'espace, une bombe atomique. On serait là de la première étape de la nucléarisation de l'espace qui va donc élargir la réflexion d'une arme atomique qui jusqu'à présent était plutôt considérée comme une arme dissuasive. C'est d'ailleurs un des problèmes dont on va parler avec vous, Bruno Tertrais, c'est qu'auparavant, on croyait la dissuasion efficace, mais on a vu avec la Russie que cette dissuasion, cette possession de l'arme atomique permettait aussi de se protéger d'actions de rétorsion. La Russie envahit l'Ukraine et on n'ose pas aller la mettre en cause parce qu'elle détient l'arme atomique. Mais peut-être avant d'entrer dans cette discussion, Jean-Claude Casanova, vous nous dites de quoi est fait ce livre de Bruno Tertrais, donc Pax Atomica.
Le sous-titre dit tout puisqu'il dit « Théorie, pratique et limite de la dissuasion ». C'est un livre qui a toutes les... Si j'ose parler comme un ancien professeur, c'est un livre formidable pour les étudiants, pour les gens qui veulent s'éclairer, pour les gens qui veulent comprendre le problème de la dissuasion. Parce qu'il y a tout au début une partie technique qui explique tous les éléments qui permettent de comprendre ce que c'est de la dissuasion nucléaire. Et puis, il aboutit à deux grandes questions politiques. Est-ce que la dissuasion a bien fonctionné ? Et restera-t-elle efficace, qui est la deuxième question. Alors, la dissuasion a-t-elle bien fonctionné? Sa réponse est oui. Il indique les théories contraires qui expliquent la paix entre les grandes puissances depuis 70 ans par d'autres raisons que la dissuasion. Mais il pense que la dissuasion a joué un rôle essentiel. Et il a un chapitre très intéressant qui est ce qu'il appelle à deux doigts, c'est-à-dire toutes les étapes, tous les incidents historiques qui se sont produits et où on a été à deux doigts d'utiliser l'arme nucléaire. Et il montre qu'à chaque fois, on a reculé devant cet usage. Et ça fait parcourir toute l'histoire de la politique nucléaire depuis 1951, depuis la guerre de Corée, jusqu'à nos jours. Et puis alors, en revanche, et c'est ce dont surtout nous allons parler, la dissuasion reste-t-elle efficace? Et il y a évidemment deux grandes questions qu'il faut se poser. C'est la situation de Poutine actuelle, qui est le seul à parler sans arrêt du nucléaire. Et puis, dans une perspective plus longue, est-ce que, dans le conflit éventuel Chine-États-Unis, la dissuasion jouera-t-elle un rôle ou le nucléaire prendra-t-il sa place?
Bruno Tertrais.
Oui, effectivement, Jean-Claude Casanova a superbement résumé ce livre. Le plus important quand on s'attache à l'actualité, c'est de voir qu'est-ce que cela veut dire pour les risques qui concernent la Russie, d'une part, la Chine, d'autre part, à plus long terme. Sur la Russie, effectivement, l'arme nucléaire, c'est à la fois celle qui, de notre côté, évite que M. Poutine soit tenté d'escalader le conflit jusque chez nous, mais, et Jean-Claude l'a très bien résumé, la possession de l'arme nucléaire par la Russie, c'est aussi ce qui permet à M. Poutine d'envahir son voisin sans être inquiété, j'allais dire, outre mesure. Et donc, il y a cette espèce de d'ombre nucléaire ou de voûte nucléaire au-dessus du conflit en Ukraine qui jusqu'à présent, a contenu le conflit des deux côtés. J'ajoute que je fais partie de ceux qui ne s'inquiètent pas outre mesure de ce qu'on appelle parfois les menaces nucléaires russes, car en fait, de menaces, c'est surtout des rappels de la capacité de dissuasion de la Russie. Et jusqu'à présent, la Russie n'a pas utilisé ses armes nucléaires de manière coercitive, c'est-à-dire en menaçant d'employer l'arme nucléaire si on ne la laissait pas faire telle ou telle chose. Donc je suis plutôt, contrairement à certains observateurs, assez rassuré du comportement nucléaire, pas du tout sur le reste, nucléaire de la Russie depuis 2 ans.
Oui, parce que cette invocation régulière d'ailleurs de Vladimir, du nucléaire par Vladimir Poutine a eu un effet majeur, c'est que dès le départ, Joe Biden et les autres dirigeants européens ont considéré qu'il ne fallait pas, c'était l'obsession et dans tous les discours on entendait cela, et surtout pas faire la guerre à la Russie, surtout pas se mettre en situation d'être considéré, vous vous souvenez au tout début, comme co-belligérant, parce qu'on avait évidemment... Donc du coup, ça donne une impunité à Vladimir Poutine, parce qu'on limite l'aide que l'on donne à l'Ukraine, on la limite à il ne faut pas que l'Ukraine perde, mais on ne dit pas il ne faut pas que l'Ukraine gagne, on dit il ne faut surtout pas qu'elle perde. Et donc cette invocation du nucléaire, c'est vraiment ce qui permet à Poutine de continuer, qui lui a permis d'avancer très précisément, Bruno Tertrais.
Oui, vous avez raison, mais j'invite les observateurs et les analystes à faire une expérience qu'on dit contrefactuelle, c'est-à-dire à imaginer que la Russie ne soit pas dotée de l'arme nucléaire. Est-ce que nous serions, nous occidentaux, nous européens, nous serions allés bombarder Moscou comme nous avons bombardé Belgrade en 1999? Je n'en suis pas sûr. Ni le président américain ni le président français n'ont été élus pour déclarer la guerre à la Russie, qui ne nous a pas attaqué. Autrement dit, elle a attaqué un pays européen, mais pas les pays alliés que nous sommes, États-Unis et Europe. Et donc, c'est vrai, vous avez raison, bien sûr, l'arme nucléaire est un facteur de prudence, mais je ne suis pas certain que notre politique aurait été radicalement différente en l'absence de cette présence nucléaire. Sans doute toutefois, aurions-nous été plus enclins à intervenir directement en Ukraine, ce que nous ne faisons pas. Mais très clairement, c'est vrai, l'arme nucléaire est un facteur de prudence de tous les côtés qui s'impose très clairement.
Jean-Claude.
Alors, je voudrais vous interroger, puisqu'on raisonne sur l'Europe, sur l'ombre que jette désormais la possibilité de l'élection de Trump. Parce que si l'élection de Trump est un espèce de retour complet à l'isolationnisme américain, c'est-à-dire ce qui se passe en Europe ne nous concerne pas, est-ce que l'Europe a une capacité suffisante pour dissuader la Russie? Autrement dit, quelle serait la situation d'une Europe qui deviendrait autonome, si j'ose dire, par rapport aux États-Unis?
Bruno Tertrais.
Les interventions récentes de Donald Trump ont très clairement remis cette question au centre du jeu. On voit qu'il y a énormément, c'est très intéressant d'ailleurs, d'agitation intellectuelle et politique sur ce sujet en Allemagne. Et donc Berlin est en train de se rendre compte que la possibilité d'un deuxième mandat Trump pourrait affecter directement les fondements même de sa sécurité. Alors, si Trump arrivait au pouvoir en janvier 2025, d'abord nous ne savons pas exactement ce qu'il ferait, puisque c'est par définition un homme imprévisible, mais s'il devait rompre le contrat transatlantique, alors les Européens et en premier lieu les Français, mais aussi les Britanniques, seraient contraints de, pas de se substituer totalement aux États-Unis, mais au moins d'affirmer plus clairement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, que leurs propres forces nucléaires nationales, certes moins puissantes, mais européennes, protègent bien davantage que ça a été le cas jusqu'à présent, protègent aussi l'Europe. Nous n'aurions pas d'autre choix que de nous substituer partiellement aux Américains pour protéger le reste de l'Europe.
Ce qui est un point contesté d'ailleurs, puisqu'il y a déjà des gens, d'anciens ou d'actuels responsables politiques qui disent jamais la dissuasion française, c'est pour protéger le territoire national, point final. Donc on entrerait là dans une discussion d'une autre nature, alors que d'autres voix s'élèvent pour dire mais il faut que la France, au fond, prenne ses responsabilités. Bruno Tertrais.
Alors, le point final n'est pas pertinent, puisque d'abord, ceux qui disent cela, essentiellement à l'extrême droite et à l'extrême gauche, font un contresens historique. Ils ont oublié, ou peut-être n'ont jamais su, que depuis le général de Gaulle, je dis bien depuis le général de Gaulle, la dissuasion française ne s'est pas limitée au seul territoire national. Il y a des mots très précis du général de Gaulle et de Georges Pompidou à cet effet. Deuxièmement, ils font une erreur aussi parce que ils interprètent à tort ce qui est dit par les responsables actuels, c'est-à-dire bien sûr Emmanuel Macron, mais aussi par ses prédécesseurs. Il n'y a jamais été question ni de partager la décision d'emploi de l'arme nucléaire, ni de la mettre au service de l'Union européenne. C'est totalement exclu, et j'allais dire, c'est un mauvais procès de l'affirmer. Ce qui est en jeu, c'est pas du tout cela, c'est de faire quelque chose qui ressemblerait un peu, toutes choses égales par ailleurs, à ce que font les Américains aujourd'hui, tout en gardant, bien sûr, la maîtrise totale de la décision d'emploi sur nos forces nucléaires.
Jean-Claude Casanova.
Je me souviens même, il y a, je crois, une note de De Gaulle, et puis ça correspond aux accords d'Ottawa, où, en gros, la dissuasion française est interprétée comme un élément préparant et avançant la dissuasion américaine. Et donc, si j'ai peine à croire que Trump aille jusqu'à retirer les forces américaines d'Europe et les engins nucléaires américains qui existent en Europe. Ça m'étonnerait qu'il aille jusque-là, parce que à l'intérieur du Congrès, je ne suis pas sûr qu'il obtiendrait un soutien là-dessus, de même dans l'establishment de sécurité, dans l'intelligence et dans l'armée américaine. Mais enfin, on peut envisager ça. Je voulais vous interroger sur la déclaration de Poutine à propos de Trump. Poutine a dit qu'il préférait Biden parce que Biden était tout à fait prévisible, etc. Il a d'ailleurs une phrase très méprisante à l'égard de l'Europe, puisqu'il dit simplement l'Amérique, c'est l'OTAN, c'est l'Amérique, et il n'y a rien d'autre que l'OTAN et l'Amérique, comme si l'Europe n'existait pas. Mais personnellement, j'interprète la phrase de Poutine comme une phrase de soutien à Trump, puisque ça a permis immédiatement à Trump de dire, bien sûr, Poutine préfère Biden parce qu'il obtiendra n'importe quoi de Biden, tandis qu'il n'obtiendra rien de moi, en sous-entendu. Et c'est qu'il est une façon de, au fond, Poutine dédouane Trump d'être pro-poutinien. J'ai oui. tendance à l'interpréter comme une manœuvre, mais peut-être que je complique exagérément.
Ou le sens particulier de l'humour de Vladimir Poutine. Bruno Tertrais.
Oui, je suis d'accord avec l'interprétation de Jean-Claude Casanova. Ça n'est évidemment pas du tout innocent ou anodin de la part de Poutine. C'est évidemment une manœuvre politique. Ça, c'est une forme de dédouanement, tout à fait. Il ne faut absolument pas prendre au sérieux cette déclaration.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Bruno Tertrais, vice-directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui est l'auteur d'un livre intitulé Pax Atomica. Et nous parlons donc des problèmes de dissuasion, de nucléaire. Juste un mot, Bruno Tertrais, avant de parler plus avant de l'Ukraine. Est-ce que vous prenez au sérieux alors cette affaire de bombes satellites, de bombes atomiques satellisées autour de la Terre, qui serait la prochaine étape russe dans son armement nucléaire, Bruno Tertrais?
Alors, pour l'instant, rien, je dis bien rien, ne permet d'affirmer qu'il s'agirait d'armes nucléaires dans l'espace. Ce que l'on sait avec certitude, c'est d'une part que les Russes ont un nouveau projet de diversification de leur arsenal. Ils en ont beaucoup. M. Poutine a permis au bureau d'études et au laboratoire russe d'être très créatif. Il semble plutôt qu'il s'agisse d'une arme anti-satellite, mais avec une propulsion nucléaire et non pas une arme nucléaire, ce qui changerait tout. Mais mettre des armes nucléaires, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, on ne voit pas trop ce que la Russie gagnerait à le faire. Si vous voulez brouiller les satellites avec une explosion nucléaire, il vaut mieux le faire en l'attirant depuis le sol. La deuxième chose dont on est sûr, c'est peut-être la plus intéressante, c'est que des parlementaires américains ont choisi de mettre cette information en exergue et de la décrire comme extrêmement inquiétante, sans doute pour montrer que le danger russe était toujours présent, qu'il ne faut pas être obsédé seulement par la Chine, comme le font certains de leurs collègues. Donc je crois qu'il faut voir l'ampleur prise par ces informations, aussi dans le cadre d'un jeu politique américain, dans la mesure où on sait bien sûr que l'assistance militaire à l'Ukraine est toujours en danger au Congrès.
Oui, alors on sait que ces révélations, en effet, viennent d'un élu républicain qui préside la commission sur le renseignement au Congrès des États-Unis, enfin à la Chambre des représentants des États-Unis, et qu'il a sans doute en tête d'alerter sur le danger russe pour montrer qu'il faut aider l'Ukraine à résister précisément à la Russie. Ça paraît en effet le sous-texte de cette information. Ce qui nous amène évidemment à la situation actuelle. Comment regarder regardez-vous l'état des lieux, l'état des forces, Bruno Tertrais? On sait que le front est gelé, encore qu'on sait aussi qu'il y a une offensive très forte de la Russie sur un ou deux points de ce front, et des Ukrainiens qui se plaignent de plus en plus ouvertement, relayés d'ailleurs par des responsables américains, d'être en panne d'artillerie, en panne d'obus, avec de plus en plus de difficultés à contrecarrer les offensives russes. Bruno Tertrais.
Oui, vous avez décrit la situation militaire assez clairement. On peut parler de gel dans tous les sens du terme, même s'il y a à la fois des actions ukrainiennes très intéressantes sur l'arrière du front et très probablement des sabotages en Russie. Il y a des vrais succès militaires ukrainiens dans la mer Noire, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a quasiment plus de flotte de la mer Noire russe. Mais c'est vrai que sur le plan de la ligne de front, on a très clairement de nouvelles tentatives de la Russie de percer le dispositif ukrainien, et avec malheureusement un certain succès, même si, j'allais dire, l'armée ukrainienne n'est pas au bord de l'effondrement, absolument pas. Elle est en manque de munitions, on le sait, et l'Europe, les États-Unis et les autres pays n'ont pas la possibilité de donner aujourd'hui toutes les munitions aux Ukrainiens dont ils ont besoin. Mais on va dire qu'il n'y a aujourd'hui, à mon sens, pas de risque d'effondrement, ni du côté russe, ni du côté ukrainien, et que malheureusement, cette situation de front relativement stable est probablement appelée à durer, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passera rien d'un côté ou de l'autre. Si, par exemple, les Allemands finissaient par livrer ces fameux missiles à longue portée tout russes, eh bien, des actions très fortes en Crimée seraient par exemple possibles. Je dis cela au moment même où la France et l'Ukraine signent un partenariat de sécurité extrêmement important qui engage la France, comme ses autres partenaires l'ont fait, pour une dizaine d'années sur l'assistance militaire à l'Ukraine. Donc là, le message que la France envoie avec cet accord franco-ukrainien, c'est vraiment que nous sommes là aux côtés des Ukrainiens dans la durée.
Alors il faut rappeler que tout cela vient du relatif échec du sommet de Vilnius, puisque à ce sommet, l'idée d'une Ukraine rejoignant l'OTAN avait été plus ou moins écartée, plutôt plus que moins d'ailleurs, et donc l'Ukraine a substitué à cette non-intégration dans l'OTAN, a substitué des accords bilatéraux, un accord bilatéral avec la Grande-Bretagne, un avec l'Allemagne, un avec la France, vous venez de l'évoquer, mais aussi en projet, aussi un accord de même nature avec Rome. Donc ça ancrerait davantage l'Ukraine et donc les obligations de défense des Européens, Bruno Tertrais.
Oui, et puis cela donne aussi d'abord, c'est un message aux Ukrainiens, c'est un message à la Russie, et puis aussi c'est un message à l'industrie de défense française ou européenne de manière générale, parce que l'industrie de défense, pour s'adapter à de nouveaux contrats, des demandes de production d'obus, de canons César, de missiles, etc. et autres, elle a besoin de prévisibilité, elle a besoin de s'assurer que ce que va lui demander l'État français, c'est dans la durée. Et ces accords de sécurité, ils sont aussi destinés à assurer, à garantir cette prévisibilité pour l'industrie de défense. Car au-delà même de l'Ukraine, il est très clair que quel que soit l'avenir de cette guerre, quelles que soient les perspectives ouvertes pour l'Ukraine, dans tous les cas de figure, l'Europe devra se préparer, doit se préparer dès maintenant, à une situation sécuritaire plus difficile que ce qu'elle a connu depuis 1990. Je pense que certains exagèrent un peu en parlant du risque d'invasion russe de l'Europe ou d'offensive russe si la Russie devait connaître des succès militaires en Ukraine. Mais ceux qui se voileraient la face en pensant que nous pouvons continuer comme ça a été le cas depuis 30 ans se trompent également. D'autant plus, bien sûr, il y avait un président Trump élu en fin 2024. Dans tous les cas de figure, nous sommes dans une Europe qui doit investir encore plus sur sa défense.
Jean-Claude Casanova.
Et là, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Bruno Tertrais. À tous les points de vue, le mouvement doit être d'augmenter l'industrie de défense en Europe. D'ailleurs, ce sera très bon au point de vue économique pour redresser davantage l'économie européenne qui marche moins bien que l'économie américaine. C'est important économiquement. C'est important politiquement vis-à-vis de la Russie puisque ça montre l'existence de l'Europe. Et c'est donc à tous les points de vue, je trouve que c'est l'axe vers lequel ça répond aux objections de Trump sur l'insuffisance de dépenses à l'intérieur de l'OTAN. Enfin, à tous les points de vue, je trouve que c'est l'axe dans lequel il faut s'engager, se réjouir d'une certaine façon du bon accueil qui est fait à l'Ukraine dans les capitales européennes.
Et qui contraste avec les difficultés donc de l'Ukraine aux États-Unis toujours. Bruno Tertre, est-ce qu'on peut en voir le bout de cette affaire ou est-ce que les choses vont rester bloquées? Parce que là, on voit bien que Joe Biden avait mis en place un dispositif qui conditionnait au fond l'aide à Israël, qui le conditionnait à l'aide à l'Ukraine, qui a été accepté au Sénat par les sénateurs, mais qui est refusé toujours par une majorité de députés républicains à la Chambre des représentants, avec cette première historique jamais vue d'ailleurs, c'est-à-dire des élus républicains traditionnellement autonomes et qui obéissent au doigt et à l'œil à quelqu'un qui n'est même plus élu qui est même poursuivi par la justice, à savoir Donald Trump. Bruno Tertre.
Oui, c'est assez fascinant, je dois dire. On peut dire que Donald Trump a envoûté, hypnotisé, zombifié les députés républicains qui n'osent pas aller contre lui. Et ils ont peur de lui. Ils ont peur de la défaite fin 2024. Et donc c'est vrai que même des gens assez raisonnables qui étaient prêts à voter pour le soutien militaire à l'Ukraine sont en train de faire marche arrière. Ça n'est pas perdu car le deal qui est en préparation au Congrès concerne également la protection et la surveillance et le renforcement de la frontière sud des États-Unis. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. La grande question pour les jours et les semaines qui viennent, c'est de savoir s'il y aura suffisamment de républicains, je dirais, raisonnables pour faire un deal avec l'administration Biden sur ce point. Autrement dit, on continue à aider militairement l'Ukraine à condition que Israël continue à être soutenu et surtout que la frontière sud ne soit pas oubliée. Nous le verrons assez rapidement, mais en cas d'échec, ce serait un nouveau mauvais signal pour l'Ukraine.
En tout cas, l'idée de Trump est quand même de continuer à pourrir la situation justement au sud, à la frontière avec le Mexique, parce qu'il sait que ça génère de l'impopularité pour Joe Biden, et donc bloquer le système, c'est évidemment assurer que la situation sur place va empirer, et les protestations et l'impopularité va gagner. Donc c'est ça qui rend les choses difficiles, Bruno Tertre.
Oui, très clairement, et j'ai envie d'ajouter que cette question migratoire, elle est désormais un enjeu politique majeur à peu près dans toutes les démocraties occidentales, et d'ailleurs pas seulement occidentales, et d'ailleurs pas seulement les démocraties. Car à force de décrire l'Amérique comme un grand pays d'immigration, on oublie d'abord qu'elle ne l'a pas toujours été, et ensuite que, effectivement, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est un enjeu politique majeur aujourd'hui, et ça en sera un pour l'élection de 2024.
Jean-Claude Casanova.
C'est le côté dramatique de cette situation. Au fond, tout est suspendu dans la démocratie américaine sur un homme exécrable, mais c'est un homme exécrable qui voit là où les choses font mal. Et d'une certaine façon, c'est ce qui fait sa force, si vous voulez. Il voit l'aspiration américaine à la fermeture des frontières, au fond, et il en profite politiquement, il sacrifie le reste. Et d'une certaine façon, la situation de l'Europe et la guerre ukrainienne est liée à la possible victoire de Trump.
Voilà, Bruno Tertre, on a fait à peu près le tour de ce que l'on pouvait vous demander à l'occasion de la publication de votre livre Pax Atomica, donc chez Odile Jacob. Je rappelle que c'est donc la description de tout ce qui concerne l'arme nucléaire, la couverture nucléaire, dont la France fait partie, puisque la France est un des pays qui a l'arme nucléaire. On n'a plus trop le temps, il aurait fallu, et on vous reviendrait certainement, parce qu'il y a aussi la question de la prolifération de l'arme nucléaire, il y a la question des pays qui sont déjà de facto dotés de l'arme nucléaire et de ceux qui veulent continuer, notamment l'Iran, à s'en équiper, à s'en saisir, qui entraîne d'ailleurs d'autres sujets, notamment qui nous amèneront dans cette région du monde. En attendant, merci Bruno Tertre d'avoir été
merci
avec nous.
Vous.
Donc Pax Atomica, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.